Merci. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Alors, c'est le chœur final de la cantate BWV 80 de Jean-Sébastien Bach, pour ceux qui connaissent. Pourquoi qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, c'est bien ça. C'est qu'à l'origine, Bach avait écrit cette cantate, ou du moins une version précédente qu'il a remaniée par la suite, sur la base du cantique de Luther. Hein, vous avez reconnu, c'est un rempart que notre Dieu, bien sûr. Il l'avait écrit pour un des dimanches du carême. Or, nous sommes en période de carême. Voilà, c'est cette période-là. Cette cantate, hein, qui martèle la puissance de Dieu, la force de Dieu, le fait que Dieu est le plus grand. Sauf qu'il n'a pas eu le droit de la jouer parce qu'à l'époque, pendant le carême, à Leipzig, enfin c'était ça, mais c'est sans doute plus large que ça, on n'avait pas le droit de manifester sa joie. Il n'y avait pas de chant, on ne chantait pas de Gloria, on ne chantait pas d'Alléluia, et c'est encore quelque chose qui est en pratique dans l'Église catholique. On devait plutôt manifester de la tristesse, des phases de carême, quoi. Là, vous savez, c'est l'expression. Une phase de carême, c'est quelqu'un qui doit montrer qu'il est triste. Alors, ça m'a interpellé, ça m'a interrogé. Cette période, effectivement, hein, on sait, entre le 15 février à peu près et le dimanche de Pâques, 40 jours. Dimanche non compris, donc ça en fait à peu près, je sais pas, 47 ou 8, un truc comme ça. C'est une pratique qui remonte au 4e siècle de l'Église, et c'était à la fois une période de mémoire des 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert, d'où le jeûne, mais aussi de préparation à Pâques. Et c'est ça qui m'intéresse, et ça rejoint d'ailleurs ce qui a été proposé dans la lecture partagée de l'évangile de Marc, ce que disait Jean-Haut en commençant. Voilà, cette période, alors nous ne sommes pas très à cheval sur le calendrier liturgique, mais on va dire le carême, c'est un peu le pendant de l'Avent, des 4 semaines de l'Avent, hein, les 4 semaines qui précèdent Noël, ni dans un cas ni dans l'autre, ni pour l'Avent ni pour le carême, ce sont des prescriptions bibliques, ce sont des traditions humaines qui permettent de remémorer, de revivre peut-être les grands moments de la foi chrétienne en ce qui concerne Jésus-Christ, qui est le centre de ce que nous croyons et prêchons, Jésus-Christ né, mort, ressuscité. Alors on aime bien l'Avent, hein, et on décore la salle ici, on fait les bougies les unes après les autres, dimanche après dimanche. L'Avent, c'est une fête plus joyeuse naturellement, hein, elle annonce une naissance. La naissance d'un roi, et donc il y a tout ce qui se rajoute à cela. Alors que, je garde le nom, le carême, hein, donc la période avant Pâques, on a plus de mal, parce que peut-être ça nous rappelle que notre foi, notre espérance repose sur quelqu'un qui certes est né à Noël, dans des circonstances que l'on rend un peu, voilà, dont on exagère un peu le côté glorieux, mais surtout qu'il est passé par la mort. Et Jean-Haut nous a rappelé tout à l'heure l'épisode où il y a ce débat avec l'apôtre Pierre. Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. C'est pas possible. Ou peut-être qu'il voulait dire, mais ne dis pas ça si fort, parce qu'ils vont tous s'en aller en courant, les disciples. Hein, voilà, c'était un peu ça. Et c'est pourtant cela le fondement de la foi chrétienne. Pourquoi cette mort? Parce que Jésus a voulu aller jusqu'au bout de la logique de Dieu, qui est qu'envers et contre tout, son amour est offert, nous est offert aujourd'hui à tous les gens qui vivent autour de nous. Je vais lire quelques versets là-dedans. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, vous connaissez ces textes, lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait-il le courage de mourir pour un homme qui est bon? Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà le fondement de cette période. Voilà pourquoi c'est peut-être un moment qui nous est plus difficile. Alors moi, pendant cette période avant Pâques, j'aime bien réécouter des musiques qui me rappellent ça. Bon, je suis plutôt versé dans la musique classique, hein, c'est comme ça. C'est peut-être dû à mon âge ou à ma culture, je ne sais pas. J'aime bien les Passions de Bach, par exemple, c'est dans la voiture en venant, là, c'était vers la fin de la Passion selon saint Matthieu de Bach. Parce que ces chants, ces textes, me rappellent, me redisent, alors c'est en allemand, mais me redisent quand même les paroles de l'Évangile. les paroles de l'Évangile dont j'aime m'abreuver, dont j'aime me nourrir. Et je vous invite vraiment à répondre à cette incitation de l'Église de parcourir l'Évangile de Marc, par exemple, puisque c'est celui-là qui est proposé, pour vous nourrir de cette parole de Dieu, pour vraiment ne rien oublier, ne rien rater de cela. Et je pense que ces textes qui nous rappellent combien Jésus a dû lutter, combien il a été abandonné par ses amis, par ses disciples, livré à la jalousie, à la cruauté, on peut dire à la bêtise humaine, dans certains des échanges qu'il y avait, et qui pourtant disait non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alors pour moi, Pâques, c'est sûrement le moment liturgique, on va dire, le plus important de l'année, si tant est qu'on doive s'arrêter à ça. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est quand même cet événement-là qui est rappelé à de multiples reprises, plutôt que la naissance de Jésus, à part les quatre évangiles, il est assez peu fait mention des circonstances de la naissance de Jésus, alors que le Nouveau Testament ne parle que de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Déjà, le premier discours de Pierre, juste au moment de la Pentecôte, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez, il a été livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. J'ai lu tout à l'heure un texte dans l'Épître aux Romains. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et puis aux Galates, c'est après dans notre Bible, mais je pense que chronologiquement ça a été écrit avant, mais ce n'est pas très grave. Galates 6, verset 14, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, pour moi. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, également, au chapitre 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et puis j'arrête là parce que j'avais encore des tas de versets, mais le Nouveau Testament est plein de l'épisode de Pâques. Et bien sûr, à chaque fois, c'est la mort de Jésus et c'est sa résurrection. Et c'est cela que nous avons à nous rappeler tous les jours. C'est complètement étranger à nos logiques humaines que pour que Dieu montre ce qu'il est, pour que nous puissions entrevoir ce qu'il attend de nous, il a fallu que quelqu'un aille jusqu'au bout d'une logique d'amour, jusqu'au bout, et le bout, c'était la mort, pour montrer que Dieu n'était pas arrêté par cela. Alors Pâques, c'est un peu l'occasion de revoir les fondamentaux de notre foi. Vous savez, il y a un épisode dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, où il y a deux personnes qui marchent sur le chemin, là, et qui discutent des événements tragiques. Eux, ils sont arrêtés à la mort de leur ami, ou de celui qu'ils connaissaient. On ne sait pas exactement qui sont ces deux pèlerins d'Emmaüs, puisqu'on les appelle comme ça, c'est dans Luc 24. Et ils discutent entre eux, puis il y a un troisième qui vient les rejoindre à un croisement de chemin, là, de quoi vous parlez, etc., etc. Et ce que Jésus leur explique, on le trouve dans, je lis juste quelques versets dans Luc, chapitre 24. Jésus leur dit, parce que c'était lui, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Eux, ils étaient peut-être déçus de ça au départ, parce qu'ils avaient en tête que ce Jésus qu'ils avaient suivi, il allait devenir le Messie glorieux, victorieux, il allait transformer le monde là directement d'un coup de baguette magique, si j'ose dire, ou dans la suite des miracles qu'on l'avait vu faire. Et en fait, ça s'était terminé honteusement, peut-on dire, sur une croix. Et Jésus leur a expliqué que tout cela, non, c'était effectivement dans les mains de Dieu et que c'était juste la démonstration que l'amour de Dieu n'a pas de limite n'a pas les limites que nous nous imposons parfois. Et il aura sans doute cité ce texte connu dans Ésaïe 53, où le Christ nous est décrit comme le serviteur souffrant, celui qui a accepté d'être mené à la boucherie comme une brebis que l'on conduit, qui a été trahi par tous. Cela, ça fait partie de ces choses dont nous avons besoin de nous rappeler. Notre foi chrétienne, elle s'incarne dans nos vies d'aujourd'hui, elle nous demande de vivre d'une certaine manière, mais elle a commencé par cela, elle a commencé par la mort de Jésus-Christ. Alors tout ce souvenir des souffrances de Jésus, de sa lutte contre les ennemis de toutes sortes, ses disciples, la foule, les savants, les puissants, Hérode, Pilate, etc., tout cela est difficile à accepter, est difficile et pour autant, est-ce que nous avons à faire une phase de carême, comme je disais tout à l'heure, en nous rappelant ces événements? Et bien sûr que non, puisque vous avez remarqué que à peu près tous les passages du Nouveau Testament qui nous rappellent que Jésus est mort, dans le même souffle quasiment, ou dans la même phrase, disent toujours qu'aussi il est ressuscité. Comme ce que Jésus avait dit à Pierre, quand Pierre ne comprend pas que Jésus doit mourir, mais Jésus l'avait dit, voilà, ça va se terminer par ma mort, mais 3 jours après, je reviendrai. Jésus avait annoncé tout cela. Alors, plutôt que de faire une phase de carême pendant la période où nous nous remémorons les fondamentaux de la foi chrétienne, nous avons peut-être à faire face au Seigneur d'abord, face aux autres autour de nous, face à nous-mêmes peut-être. Face au Seigneur, ça veut dire voilà, repartir à zéro. Où est ma foi? Est-ce qu'elle est vraiment fondée sur cette vérité que le Christ, ne savez-vous pas que le Christ devait souffrir ces choses, qu'il entre dans sa mort et qu'il ressuscite le troisième jour, parce que c'était la manière dont Dieu démontrait que son amour pour l'humanité était infini. Ça veut dire peut-être nous tourner vers lui à nouveau. Profitons de cette période de Pâques pour peut-être revoir un peu où nous en sommes avec le Seigneur, personnellement et peut-être collectivement également, vers lui, que nous tourner vers lui. C'est pour ça que j'avais suggéré ce chant qu'on a chanté, hein, de tourner les yeux vers le Seigneur, nous tourner vers lui que peut-être nous délaissons parfois, vers lui auquel nous ne rendons pas vraiment hommage par nos vies, vers lui à qui nous ne laissons qu'une place réduite le dimanche entre 10h et midi, voilà, ou peut-être plus. Je parle pour moi d'abord, autant que pour vous bien évidemment. Dans le prophète Ésaïe, Dieu s'adresse à son peuple et lui dit et l'invite à se tourner vers lui. Dans Ésaïe au chapitre 45, « N'est-ce pas moi l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre. » Alors, faire face au Seigneur, nous mettre à genoux devant lui et lui demander de nous éclairer tout à nouveau, de nous redonner ce Dieu, deuxième œil peut-être qui nous manque, parce qu'il y en a, il y en a un qui est un peu obscurci, ou le troisième œil même, le suggère Bernadette, bon, pourquoi pas. Mais voilà, d'avoir nos yeux vraiment éclairés, que les écailles tombent de nos yeux pour que nous puissions voir tout à nouveau ce mystère, cette illogique totale qu'il a fallu que quelqu'un meure pour démontrer l'amour de Dieu. Et puis faire face aux autres, parce que nous vivons au milieu de nos semblables, dans le monde, autour de nous, il y a des gens qui ont aussi besoin de toucher du doigt ce que ça veut dire d'être chrétien. Alors, pour certains d'entre eux, c'est par la parole, des évangélistes, des gens qui vont prêcher. On peut être appelé aussi à témoigner de ce que l'on vit, de ce que l'on croit, de ce que l'on connaît. Et puis ça peut être aussi par les actes. Ça peut être aussi parce que nous prenons soin de l'autre. Ça peut être aussi parce que nous prions pour ceux qui sont dans la souffrance. Tiens, en passant, d'ailleurs, je vous invite à prier pour les parents de Jean-Daniel Picus, mon Jean en l'occurrence, qui sont pas mal touchés par la Covid. Désolé, j'en parle un peu, de la Covid. Hein, et Cécile en particulier, toujours à la maison avec l'oxygène, l'assistance respiratoire. Ça fait plusieurs semaines des très fortes fièvres. Daniel un peu moins, mais donc voilà, on peut penser à ces gens-là, faire face à eux et nous dire, voilà, on va porter avec vous ce moment difficile. J'ai un collègue aussi qui vient de perdre son beau-père du Covid. On a une période quand même qui est compliquée, hein, même si on ne veut pas parler que de ça. Et on parlera tout à l'heure d'espérance. Mais vous savez, quand à la fin de l'évangile de Matthieu, cette parabole hein, où Jésus nous montre que par des gestes, où on donne à manger à quelqu'un, où on soutient quelqu'un qui est dans la fragilité, dans la souffrance, c'est à lui-même. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Ah bon, tu avais donc faim ? Mais en tant que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, hein, c'est dans l'évangile de Matthieu. Alors voilà, c'est faire face au Seigneur, faire face aux autres, et puis faire face à nous-mêmes, pour vraiment repartir sur la base de ce qui fait notre foi. Et merci Jean-Haut, c'était pas concerté, hein, mais tu as lu quelques versets du psaume 19. Je ne sais pas si Huguette nous écoute, mais elle avait dit qu'elle écouterait peut-être. Mais comme elle n'est pas là, je vais me permettre de dire. C'est notre verset de mariage. « Reçois favorablement les paroles de ta bouche éternelle, mon rocher, mon libérateur. » C'est important de... Merci, il n'y a pas à applaudir, c'est pas la peine. Mais... Hein ? Eh bien, c'était il y a longtemps, oui. C'était il y a plus longtemps que toi quand tu étais jeune et que tu faisais du vélo, hein, c'est ça ? Et grâce à Dieu, depuis 43 ans bientôt, nous avons pu ensemble, alors avec nos imperfections et avec tous les défauts que nous avons et avec les crises que nous avons traversées, comme n'importe quel couple ou famille, évidemment, il n'y a pas de raison. Mais nous pouvons tenir, et ça reste toujours des choses qui sont importantes, que nous puissions vraiment faire face à nous-mêmes en ce temps de Pâques pour ressaisir ce qui fait l'importance. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Que nous puissions vraiment être reconnaissants pour tout ce que nous recevons du Seigneur. Et d'abord, cette connaissance de son message d'amour, cette connaissance de son œuvre de salut, mais aussi tout ce qu'il nous donne jour après jour, même si c'est dans les difficultés, même si parfois il y a des moments où on ne voit pas trop le bout, hein, et comme quand la buée est sur les lunettes, hein, comme on disait tout à l'heure, maintenant avec le masque, il fallait rentrer dans une pièce, vous ne voyez plus rien pendant un moment, le temps que... Les températures s'équilibrent, ben on a parfois comme ça dans la vie. Hein. Des moments où on a l'impression qu'on ne voit vraiment pas où on doit aller. Pour quelle raison tel et tel et tel truc nous arrive, que le Seigneur nous donne vraiment de nous raccrocher à lui et à saisir cette joie et cette paix qu'il nous donne. Il y a un chant, on aurait pu chanter aussi « Oh la paix que Jésus donne ». Je ne la connaissais pas et je crois que c'est vraiment ce que nous pouvons faire. Et pour terminer, je vais vous inviter, puisqu'on est invité à lire de l'évangile de Marc, un texte dans l'évangile de Marc, qui nous montre Jésus d'une manière particulière. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur, sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, l'effroi les avait saisis. Alors une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent, mais ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, tout en discutant, en disant « Mais qu'est-ce que ça peut bien dire, ressuscité d'entre les morts ?» J'aime bien cette dernière mention. Une vision à laquelle nous pouvons nous accrocher au moment de Pâques. D'ailleurs, cet épisode se situe... pas très longtemps avant la fin tragique de la vie de Jésus. Un peu comme si Jésus savait que ses disciples, et en particulier les 3 leaders là, qui l'emmènent avec lui, allaient être vraiment secoués et qu'ils allaient connaître des périodes de turbulences terribles. Et alors il leur donne cette image, il leur permet d'être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Il voulait les remplir d'une vérité qui allait passer au-delà du temps de l'épreuve et les aider à continuer et à avancer. D'ailleurs, c'est le seul épisode de sa vie de 3 ans avec Jésus que Pierre relate dans une de ses épîtres. Dans 2 Pierre, hein, il dit Ce n'est pas, comment c'est le, je ne connais pas par cœur. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et donc cet épisode que Jésus leur montre et que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vraiment traverser les épreuves, traverser les difficultés. Après ça, il y a eu tout ce que les évangiles nous racontent, tout ce que ce temps de la passion nous aide à nous souvenir. Pierre qui a trahi tous les disciples qui se sont enfuis, Jésus qui s'est trouvé seul face à ses accusateurs, face au supplice de la croix. Et nous aussi, nous avons besoin de nous saisir de ces choses-là. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu, que ces images de la gloire de Dieu puissent vraiment imprégner nos esprits, nos cœurs, pour que quand le vent souffle, quand la tempête est là, et nous avons tous des tempêtes dans nos vies, qu'on puisse vraiment s'accrocher à cela, malgré espérer contre toute espérance. Alors dans ce récit, là, on a vu Jésus qui se montre tel qu'il est vraiment, et c'est celui-là que nous adorons le dimanche quand nous venons ici. Glorieux, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Hein, le texte dit bien, là, ses vêtements étaient blancs d'une blancheur qu'aucun blanchisseur n'est capable de produire. C'est vraiment une expression un peu imagée pour dire ça dépassait tout ce qu'on peut imaginer. C'est comme ça qu'il est Jésus. Il est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et puis en même temps, il est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Il y avait Élie, il y avait Moïse, il y avait les trois disciples. On est dans le temps présent, on est dans un temps historique, on s'appuie sur ce qui a existé. Inscrit dans notre histoire, Élie et Moïse qui, en quelque sorte, représentent tout le plan de Dieu pour l'humanité, tout ce que Dieu a fait. Et puis, il parle de la croix. C'est ce que l'évangile de Luc, on ne l'a pas lu là dans l'évangile de Marc, mais dans Luc, il parlait de son départ qui allait bientôt se produire. Hein, c'est ce que nous dit l'évangéliste. Et puis, il y a Pierre qui réagit. Alors, on se dit, bon, il dit encore une bêtise. Oui, parce qu'on aime bien dire ça de Pierre, ça nous amuse, mais il est simplement plein de bonne volonté, peut-être, tout simplement. Sauf que, comme disait Jean tout à l'heure, il y a peut-être un œil qui est un peu bouché. Enfin, c'est ça qu'on va dire. Je vais garder cette image, elle m'intéresse. Il a peut-être aussi envie de faire durer ce moment. Oh, on est vachement bien, là, c'est super. Seigneur, ta gloire, tout ça, Élie, Moïse, un temps formidable. Vite, vite, on fait des tentes et on reste entre nous, c'est formidable. Mais ce n'est pas ce qui doit se passer. Pas plus que quand nous sommes ici à l'église, nous devons juste dire, on reste entre nous, on est formidable. Non. Cette espérance que nous avons en nous, elle doit rayonner dans notre vie de tous les jours. Et un jour, il faudra redescendre la montagne. Et puis cette voix qui confirme tout cela et qui surtout dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et pour moi, c'est vraiment le centre, la pointe de ce récit de la transfiguration. Vous avez vu des choses extraordinaires. Vous avez eu des idées qui étaient un peu décalées, comme Pierre. Vous avez été témoin de quelque chose de formidable, mais écoutez-le et que cela puisse transformer votre vie, que cela puisse transformer votre existence. Alors voilà un peu quelques pensées qui me sont venues en préparant cette prédication. Comment passer les jours qui viennent et qui nous amènent vers Pâques, même si on n'en fait pas non plus une histoire liturgique qui est trop pesante, mais est-ce que ça va être avec une phase de carême? Ou est-ce que ça va être au contraire, en nous tournant vers le Seigneur et en lui demandant de nous aider à repartir s'il le faut, à rectifier si ça doit être, en lui demandant de panser les blessures s'il y en a encore, de nous aider à aller jusqu'au bout de cette logique. Et maintenant, trois choses demeurent, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, la foi, l'espérance et l'amour. Et ce temps de carême que nous partageons maintenant peut être aussi un moment où nous allons à la fois développer notre foi, développer l'espérance que, au-delà de tout, il y en a un qui nous attend et qui nous ouvrira les bras, et puis que l'amour de Dieu puisse transparaître à l'intérieur de nos cœurs, dans nos relations avec les gens avec qui nous sommes en contact, et que le message de Pâques, ça soit ce message de la cantate qu'on a réussi à faire jouer tout à l'heure, c'est un rempart que notre Dieu, c'est en lui que nous croyons encore aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci.